Oops. Amen. Bon matin tout le monde. Amen. Vous êtes prêts à recevoir la parole ce matin? Yes. Donc ce matin, on va poursuivre la série que nous avions débutée la semaine dernière et qui s'intitule Le chant du coq. Amen. Le chant du coq au secours de notre foi. Et on va retourner ensemble tout de suite dans ce passage de vraiment qui est notre passage de référence, soit en Luc chapitre 22. Amen. Notre passage de référence en Luc chapitre 22. Et on va débuter à lire ensemble au verset 31. Et c'est évidemment l'épisode où on voit dans la parole de Dieu le chant du coq. Okay, où on voit Pierre, hein, l'épisode entre Pierre et Jésus et le reniement de Pierre. Donc, nous sommes en Luc chapitre 22, au verset 31. La parole va comme suit. Elle nous dit, « Le Seigneur dit à Simon, ou plutôt le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Verset 33, « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Et Jésus dit, « Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. » Et hein, on continue, on va sauter ensemble donc au verset 54, toujours dans le même chapitre. Au verset 54, Luc 22, après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin, ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui le regard et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est Galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. 61. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Et ce qu'on a vu ensemble, c'est quoi? C'est que le chant du coq, c'est ce moment dans une vie, cet instant dans une vie où tu perds un peu tes repères au niveau de la foi. Qu'une seconde, tu es prêt à mourir pour le Seigneur et la seconde d'après, il arrive des incidents dans ta vie où tu te trouves à le renier. Et parce que c'est quelque chose qui jamais, jamais ne t'avait même passé d'esprit, tu te retrouves dans une situation où justement, tu perds un peu les repères, tu perds un peu ton identité, tu perds la notion au niveau de ta propre foi. Et ce qu'on voit à partir du verset 31, c'est quoi? C'est que Jésus dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et ce que ça signifie ici, c'est quoi? C'est le froment, c'est le grain de blé, en fait. C'est le grain de blé qui est recouvert d'une enveloppe qu'on appelle la balle. Et le criblage, c'est l'étape où on passe le grain de blé dans le tamis pour but de justement enlever cette enveloppe-là qui couvre et qui protège le grain de blé. Et la victoire qui triomphe du monde, cette enveloppe qui nous protège en tant qu'enfants de Dieu, c'est notre foi. Et ici, ce que Jésus dit, c'est quoi? C'est que Satan a voulu vous ébranler, vous passer au tamis, afin de retirer votre foi. Et le but d'enlever cette enveloppe-là, c'est quoi? C'est pour que le grain puisse être comestible. Amen? Et on a dans la parole un verset qui nous dit quoi? que nous avons un adversaire, le diable, qui rôde, cherchant qui il va dévorer. Mais pour nous dévorer, il doit d'abord retirer notre foi. Il doit d'abord nous ébranler. Il doit d'abord arriver à nous enlever ce qui, comme on a chanté ce matin, ce qui fait de nous, ce qui nous donne cette victoire-là. Amen. Et cette victoire-là, comme la parole de Dieu nous dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, pour nous, c'est plus qu'important d'être conscient de ces choses-là, conscient que, oui, il va arriver des choses dans notre vie, oui, il va arriver des circonstances, oui, il va arriver des événements dans le monde qui vont être là dans le but d'ébranler notre foi et, si même possible, plus que l'ébranler, l'enlever. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Parce qu'il savait. Il savait dans quel monde on vit maintenant. Dans ce monde infesté par le péché, dans ce monde où, si on ne prend pas garde, comme on va voir ensemble aujourd'hui, si on ne prend pas garde, si on ne veille pas, si on ne fait pas attention, on peut facilement se laisser ébranler. Et comme Pierre, comme on a vu avec Pierre, c'est quelque chose qui n'a jamais traversé l'esprit. Pierre, c'est pas quelque chose qui s'est levé un matin, qui s'est dit, « Ah, si quelqu'un vient me voir et me demande si je connais Jésus, je vais dire non. » Oh non, demain, je pense que je vais renier le Seigneur, je vais le mettre de côté un peu, et quand tout va s'être calmé, je vais revenir à lui. Non, Pierre, un matin, il s'est dit, non, jamais, 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 il n'y a personne qui va t'apporter. Il n'y a personne qui va te mettre sur la croix. Pierre, un jour, a sorti son épée parce que quelqu'un venait chercher Jésus. Il a dit, non, il n'y a pas question que vous l'emmeniez. C'est mon maître, il n'y a personne qui y touche. Et Pierre, qui était prêt à mourir, s'est retrouvé quelques instants plus tard à renier la personne même pour qui il a sorti l'épée. Hein? Est-ce que c'est pas troublant, ça? OK? Tu fais quoi après? C'est pas quelque chose que tu décides. Je connais pas un chrétien sincère, qui aime sincèrement le Seigneur, qui se lève un matin, qui fait des plans pour abandonner le Seigneur. Qui fait des plans pour le mettre de côté. C'est subtil. C'est très subtil. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein, moi, je suis pas un chasseur. Je sais que Pasteur Ken aime la chasse, mais j'imagine que lorsqu'on va à la chasse, déjà, on se cache, n'est-ce pas? On se camoufle. Si on met des pièges, les pièges aussi sont subtils. Pourquoi? Parce que sinon, c'est juste trop évident. Et pareillement, notre ennemi qui rôde, écoute, c'est subtil. Il se camoufle, met des pièges par-ci qui sont, des fois, difficilement détectables. Mais comment est-ce qu'on les détecte? Amen. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va voir ensemble aujourd'hui comment est-ce qu'on les détecte. Parce que oui, je veux qu'on prenne du temps un peu pour parler de notre adversaire. Mais honnêtement, je veux qu'on en parle. Pourquoi? Surtout pour réaliser à la fin de tout ça que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'on va en parler un petit peu? C'est parce qu'il y a des gens qui, des fois, vivent leur vie chrétienne comme s'il n'y en avait pas d'adversaire. Et qui, parce qu'ils sont pas conscients de ça, se retrouvent à quoi? À mettre tout ce qui se passe sur le dos de Dieu. OK? Si ça se passe, c'est sûrement parce que Dieu l'a permis, c'est sûrement parce que Dieu l'a laissé faire. Dieu est en contrôle de tout. Et je vais vous dire quelque chose. Tout ce qui se passe sur terre n'est pas automatiquement la volonté de Dieu. OK? Parce que si tu regardes dans la Bible déjà, Dieu quoi? Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est sa volonté. Mais est-ce que tout le monde va être sauvé? Non. Pourquoi? Parce que les gens doivent choisir, doivent décider. Donc déjà là, on sait que tout ce qui se passe dans la vie n'est pas automatiquement la volonté de Dieu. Et il y a des choses qu'il faut déjà décider, hein, qu'il faut prendre pour acquis, qu'il faut établir dans notre vie, c'est dire, Dieu est bon, Satan est méchant. Ce qui est bon vient de Dieu, ce qui n'est pas bon ne vient pas de Dieu. Amen. On le voit dans la parole, Jacques 1, verset 16-17. Jacques chapitre 1, versets 16 et 17, qui nous dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Et ce qui n'est pas bon ne nous vient pas de Dieu. » La Bible nous dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et parce qu'il ne peut pas être tenté par le mal, il ne peut pas lui-même tenter les autres par le mal. Donc, des fois, il y a des choses qui nous arrivent de mal dans nos vies, des circonstances. On se dit, « Oh, ça doit être Dieu qui m'envoie ça pour me tester, voir si je vais passer à travers. » Si vous ne passez pas à travers et que ça vous emmène vers le mal, ce n'est pas Dieu qui vous envoie ça. Si vous ne passez pas le test et que ça produit quelque chose de mal dans votre vie, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne tente pas personne par le mal. Pour dire par la suite, « Ah, vous êtes tombé. » Est-ce que vous tenteriez votre enfant par le mal? Est-ce que vous iriez consciemment aller acheter de la drogue, le mettre sur le bureau de votre enfant et dire, « Je vais voir s'il va le prendre ou non. » Hein? Je vais lui apprendre une leçon. Je vais lui montrer que la drogue, c'est mal. Allô? Mais Dieu ferait ça, lui. Ah. Pourtant, dans ma Bible, je lis qu'il a un meilleur père que moi. Amen. Moi, je ne ferais jamais ça. Mais lui, il le ferait. Hein? J'ai prié pour que mon fils tombe malade. Je lui dis, écoute, hein, je lui donne des consignes, puis il ne respecte pas mes consignes. Donc, je vais prier, Seigneur, envoie-lui hein, une bonne maladie, qu'il reste à la maison au lit. Fait. Qu'il cloue au lit, il ne pourra plus sortir, il ne pourra plus me désobéir. Ah, tu vois, Dieu t'a puni parce que tu ne voulais pas m'écouter. Et tu vois ton enfant, qui ne se peut plus, papa, qui pleure, qui se mouche, qui suit. Ah, je l'avais dit. Non. OK? On en rit, je le tourne au ridicule, mais c'est pas drôle. OK? Parce qu'il y a des gens qui croient sincèrement ça. Et il y a des gens qui sont sincèrement bouleversés à cause de ça. Il y a des gens qui sont incapables de vivre une vie chrétienne victorieuse à cause de ça. Si tu penses que tout ce qui t'arrive vient de Dieu, comment est-ce que tu veux prier avec foi? Pourquoi, si tu penses que la maladie vient de Dieu, pourquoi tu vas chez le médecin pour que le médecin te donne une solution pour enlever ta maladie? On est malade, je m'en vais à la clinique, mais pourtant c'est la volonté de Dieu. Donc si tu vas à la clinique, si tu vas voir le médecin, tu vas contre la volonté de Dieu parce que c'est lui qui te l'a envoyé. Donc, tu devrais dire merci, Seigneur, que je suis malade, que ta volonté soit faite. Non! Non! La maladie n'est pas la volonté de Dieu. Jésus est venu pour détruire les œuvres du malin. Détruire. Et une des œuvres du mal, c'est la maladie. Okay? Mais si on n'est pas conscient que nous avons un adversaire, on est confus.
j'ai mal, ça fait aucun sens, mais j'ose même pas prier parce que je me dis, oui, Seigneur, je vais y arriver, je vais passer par-dessus, tu vas me donner la force d'y arriver, de passer par-dessus. Je prie pas. Et on se trouve finalement à accepter des choses qu'on n'a pas besoin d'accepter. Et beaucoup de gens abandonnent Dieu à cause de choses comme ça. Si Dieu si, alors pourquoi cela? Okay? Nous avons un adversaire. Jean 10, 10, on va tourner ensemble en Jean 10, verset 10. Qui nous dit clairement ici quoi? Le voleur nous parle de notre adversaire, l'ennemi, Satan, le diable. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent vivants ici quand vous êtes malades? Ou bien tu te sens plus vers la destruction? Être malade, c'est quoi? C'est se faire voler sa santé. Amen? Le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Il faut pas confondre, là. S'il y a quelque chose dans votre vie qui vous vole, s'il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de vous détruire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne mettez pas ça sur le dos de Dieu. Parce que Jésus est venu produire la vie, apporter la vie. Amen. C'est au contraire de lui qui appelle les choses qui ne sont pas et qui redonne la vie à ce qui est mort. Ce n'est pas lui qui enlève la vie. C'est lui qui veut donner la vie. Il a commencé par donner la sienne déjà. Hein? Il a donné sa vie, vous pensez, pour qu'on continue à se questionner si les choses qui sont bien ou mal qui arrivent dans nos vies, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est... Non. Amen. Mais c'est qui cet adversaire? Ézéchiel, on va lire certains passages. Et comme je vous dis, mon but, c'est pas de m'attarder à dire, « Oh, voici, on va parler du diable ce matin. » Amen. Mais la réalité, c'est que la Bible en parle. OK? Si la Bible en parle, il doit y avoir une raison. Ézéchiel 28, on va lire ensemble à partir du verset 14. OK? Parce qu'il y avait un jour un boxeur québécois qui, lui, dans le fond, il disait, jamais il regardait ses adversaires avant. Et avant un combat, la norme, normalement, les boxeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent des vidéos, des clips, des anciens matchs de la prochaine adversaire, mais lui, il ne les regardait pas. Lui, il se disait, non, moi, j'ai pas besoin de ça. Je me prépare, moi, du meilleur que je peux, et après, mon adversaire, peu importe, si moi je me prépare comme il faut, peu importe mon adversaire, je vais arriver à le vaincre. Et au-delà de ça, si je ne m'abuse, il était aussi croyant. Donc, il croyait que Dieu, en plus, j'avais pas besoin de regarder mon adversaire parce que Dieu est avec moi, puis je vais vaincre. Jusqu'au jour où il a affronté un adversaire et c'était un adversaire gaucher. Mais vous savez, on se prépare pas pareil à la boxe si tu affrontes un droitier ou si tu affrontes un gaucher. Parce que déjà, très simplement, OK, il y a un coup qu'on appelle le jab, qui est une espèce de coup d'approche. Que si tu es droitier, ton jab, tu vas te donner avec la main gauche. Mais si tu es gaucher, ton jab, il arrive avec la main droite. Donc, c'est un détail assez important à savoir. OK, n'est-ce pas? Et, oups, justement, reçoit un coup, KO, knockout. Les entrevues, qu'est-ce qu'il dit finalement? Ah, je ne savais pas qu'il était gaucher. J'aurais peut-être dû étudier les vidéos. Allô, oui, peut-être. Comprenez? Vous pouvez vous préparer comme vous voulez. Mais si on ne connaît pas qui est notre adversaire, quel coup, quelle stratégie il emprunte, on va être surpris quand même. Ézéchiel ici, donc on est en Ézéchiel chapitre 28, verset 14, qui nous parle justement du diable, qui nous dit « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé. » Il a été créé. Et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, toi, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Verset 17, ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur, je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Et également en Ésaïe, au chapitre 14, un autre passage qui nous parle du diable, qui nous dit, Ésaïe 14, au verset 12 et 14, justement, qui nous dit, « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, « Je monterai au ciel et je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Hein? Donc, qui est-il? Un chérubin, protecteur, un ange créé par Dieu, que, comme on lit ici, était d'une beauté étincelante, éclatante. Amen. Mais qui s'est enorgueilli et qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Comprenez maintenant pourquoi l'orgueil, c'est dangereux. Il s'est enorgueilli. Je suis beau, je suis bon, je suis fin, je suis le plus brillant, si, ça. Après ça, une fois que c'est toi le meilleur, et que tu veux continuer à monter, qui tu vises après? Hein? Fais attention à ça. Une fois que c'est toi le meilleur, que tout le monde est en dessous de toi, la seule personne qui te reste à viser, c'est le boss. C'est le patron, en haut. Et ici, ça donne que le boss, c'est Dieu. Mauvaise idée. Okay? Très mauvaise idée. Et à cause de son orgueil, amen. On le voit, a été précipité, a été chassé du ciel. D'autres versets nous disent qu'il y a des anges également qui l'ont suivi. Pourquoi? Parce que Dieu crée avec un libre arbitre. Dieu crée pas des soldats, des pantins. Amen. Il crée des gens avec un libre arbitre. Pourquoi? Parce que l'amour laisse le choix. OK? Donc, il a fait son choix. Et aujourd'hui, la Bible nous dit quoi? Mais qu'il rôde maintenant, qu'il cherche à se venger. Apocalypse 12, 12, hein, nous dit, « C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Animé d'une grande colère. Et dans cette grande colère, tout ce qu'il cherche à faire, c'est de nous ébranler. Amen. C'est si possible de nous enlever notre foi. Et quelle stratégie est-ce qu'il emploie? Mes amis, lorsque nous connaissons ces choses-là, nous devenons beaucoup plus forts. Parce que la Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 2, au verset 10, on va commencer 10 et 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 et 11. C'est l'apôtre Paul qui parle ici et qui dit, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Deux choses importantes ici. Première chose, la fin du verset 11 qui nous dit, « Car nous n'ignorons pas ses desseins. » Mes amis, c'est important pour nous de ne pas ignorer les desseins de l'ennemi, les stratégies de l'ennemi, les ruses de l'ennemi. Parce que je pense qu'on l'a assez dit, on l'a dit assez souvent, que nous sommes dans un combat, que nous sommes dans une guerre. Et mes amis, si tu es en guerre, c'est toujours bien d'examiner les stratégies de l'ennemi. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Éphésiens 4, verset 11 et les suivants nous dit quoi? Que les dons du ministère ont été envoyés. Pourquoi? Pour l'édification des saints, afin qu'on soit plus ballotté dans tous les sens, par tout vent de doctrine. On entend quelque chose là, oh, on court vers là. On entend quelque chose ici, oh, on court vers là. Pour qu'on soit finalement ancré solidement dans la foi, dans la vérité. On n'ignore pas les desseins de l'ennemi. Et un des desseins de l'ennemi, c'est quoi? C'est le mensonge, OK? Le mensonge. Et le mensonge, c'est tout ce qui s'élève contre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et comment est-ce qu'on fait pour détecter le mensonge? C'est pas tant en apprenant à reconnaître un mensonge. C'est plutôt en apprenant à reconnaître la vérité. Hein? Parce que c'est comme cet exemple-là que l'on donne à propos de ceux qui sont mandatés à reconnaître la fausse monnaie. Pour afin de reconnaître la fausse monnaie, les billets de fausse monnaie, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas ils arrivent dans une salle et là on leur amène toutes sortes de fausses monnaies, de dire, bon, les gens peuvent trafiquer la monnaie de cette façon. Des fois, vous allez pouvoir voir des choses comme ci. Des fois, vous allez, OK, oui, peut-être. Mais ils passent leur majorité du temps à faire quoi? À étudier la vraie monnaie. Parce qu'une fois que tu sais tous les traits sur le vrai billet, par exemple, de 100 $, une fois que tu le connais par cœur, peu importe, parce que mes amis, des nouvelles façons de falsifier la monnaie, j'imagine qu'il y a des gens qui passent leur temps à essayer d'en trouver. Qu'il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a des nouvelles manières d'essayer de falsifier de la monnaie. Donc, si il y a 10 ans, tu as étudié quelque chose, c'est plus valable. Aujourd'hui, il faut que tu en étudies d'autres. Et dans 10 ans, ça va être la même chose. Mais si tu prends ton temps à plonger tes regards sur le vrai billet, dans 10, 15, 20, 30 ans, peu importe ce qu'on va emmener vers toi, lorsque tu vas le mettre devant le vrai, c'est pas important ce qu'ils vont avoir fait de nouveau. L'important, c'est que toi, tu vas connaître le vrai. Et des nouvelles doctrines, des nouveaux enseignements, mes amis, il va y en avoir sans arrêt. Donc là, tout le monde va être perdu à essayer de savoir, oh, j'ai entendu ça, est-ce que c'est vrai? J'ai entendu ci, est-ce que c'est vrai? Ah, j'ai vu sur YouTube l'autre fois, il y a telle personne qui enseignait ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est si? Donc, on est perdu, on cherche là, on essaye ça. Finalement, on réalise que non, c'est pas vrai. Hey, étudie le vrai. Étudie le vrai. Parce que plus tu vas connaître le vrai, je te le dis, tu vas entendre quelque chose et à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit va faire Et tu n'auras même pas besoin d'aller chercher dans ta parole. Automatiquement, ça va être là. Et par la suite, je te le dis, il va te le montrer, le verset. Tu vas trouver un verset, puis tu vas dire, « Il me semble que c'est évident. » C'est évident, mais pour ceux qui n'ont pas pris le temps d'étudier le vrai, c'est pas si évident. Et c'est là l'erreur que l'on fait souvent. On pense que c'est ceux qui sont appelés au ministère qui sont appelés à étudier la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus faux. OK? Étudier la parole de Dieu, est-ce que ça veut dire m'inscrire à une école biblique? Non. Ça veut dire que cette parole-là a été donnée pour tout le monde. Tout le monde. Sans exception. Ça veut dire que ta victoire personnelle, dans ta vie chrétienne personnelle, même si des fois on aime donner la responsabilité aux autres, ta victoire dépend seulement de toi. Amen. Parce que comme on l'a dit la semaine dernière, peu importe que l'enseignement qui t'est donné est bon ou non, à la fin de la journée, c'est toi qui le reçois. Et c'est toi qui décides quoi faire avec. Okay? Donc c'est important pour nous. Donc déjà la manière, écoute, la Bible nous dit c'est le père du mensonge. Hein, c'est quoi? Jean 8, verset 44. Je pense 43, un verset avant. Jean 8, 43, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre front. Car il est menteur, et pas juste menteur, c'est le père du mensonge. Donc, lorsque vous avez des pensées qui vous viennent, qui produisent chez vous de l'inquiétude, qui produisent chez vous du stress, qui font en sorte que vous perdez votre joie, lorsque il y a des pensées qui vous viennent qui font en sorte que vous perdez la confiance en vous, lorsque des pensées qui vous viennent, qui font en sorte que vous perdez quelque chose, vous perdez votre paix, vous commencez à douter, vous commencez à remettre des choses en question. Oui, mais Dieu a-t-il réellement dit? Si c'est contre la parole de Dieu, c'est un mensonge. Il y a certaines bases dans notre vie chrétienne qu'il faut établir. Et ça, c'en est une. C'est une base que si vous dérogez de ça, là, vous êtes sujet à être ballotté par tout vent de doctrine. On n'a pas le temps on n'aura pas le temps de porter attention à toute nouvelle doctrine qui va sortir, là. À toute nouvelle mode. Vous n'allez pas essayer toutes les modes, là? Sinon, on finit plus. C'est comme d'essayer, des nouveaux régimes. Il y en a à chaque semaine, à chaque mois. OK? Donc, je vais essayer lui, je vais essayer l'autre, je vais essayer ci, je vais essayer... Ça finit plus. Alors que la base de ça, en soi, comme j'ai dit la semaine dernière, encore une fois, le principe de base, c'est si tu en perds plus que tu en prends, un jour ou l'autre, tu vas perdre du poids. C'est le principe là. Le principe, c'est d'en dépenser plus qu'on en prend. OK? Donc, c'est pas dire que tout est mauvais. Parce que moi, les personnes que j'ai vues courir à gauche, à droite, non-stop, faire 10, 15, 20 régimes, je vais vous dire, la grande majorité de ces personnes-là sont retournées à la case départ. OK? Et je parle ici, c'est quelqu'un qui a des dizaines d'années d'expérience en entraînement, dans les centres de conditionnement physique, et j'en ai vu. C'est la réalité. Et comme la Bible nous dit, que dans les derniers temps, on va avoir, les gens vont avoir quoi? La démangeaison d'entendre des choses agréables. Que ce que la parole de Dieu nous dit, des fois, est comme juste un peu trop... c'est trop direct, c'est trop demandant, c'est trop engageant. Est-ce que, par hasard, est-ce que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire? Parce que ça m'en demande un peu trop, je trouve. Donc, lorsque j'entends un message qui est d'un peu plus agréable, qui s'avale un peu plus facilement, et qui, évidemment, est appuyé de d'autres versets bibliques, c'est beaucoup plus agréable. Et ça, je vais l'acheter, ça, je vais le prendre. Hein? La vérité. C'est le truc le plus vieux au monde, là. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Un mensonge. Un mensonge, quoi? douté sur ce que la parole de Dieu, sur ce que Dieu avait dit. Il les a amenés à douter sur ce que Dieu avait dit. C'est pour ça, mes amis, que la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Votre foi en Dieu, votre fermeté de foi en ce que Dieu a dit dans sa parole. Parce que lorsque vous vous mettez à douter de un, mais là, ils ont fait plus que douter, ils ont succombé à ce doute-là. Alors, ils ont permis à l'ennemi de faire ce qu'il voulait. Hein? Et c'est justement comme ça qu'il agit. Parce que ce qu'on a chanté ce matin, c'est que Dieu est ma victoire et il est ici. Le Dieu de victoire habite en moi. C'est parce que la victoire, on l'a. Mais si tu ne sais pas que tu l'as. Amen. Si tu ne sais pas que tu l'as. C'est comme cette histoire, probablement, Pasteur Ken, l'historien, se rappellerait mieux des dates que moi. Amen. C'était, je pense, on parle des esclaves, hein, des esclaves au moment de la déclaration, pas de l'indépendance, mais lorsqu'il y avait la guerre de sécession et tout ça, et que finalement, les esclaves ont été libérés. Que l'esclavage a été aboli. Amen. Que finalement, la loi aux États-Unis a décrété officiellement que l'esclavage venait d'être aboli, que tous les esclaves étaient libres et tout ça. Mais le fait que la loi ait décrété officiellement que les esclaves étaient libres, premièrement, la nouvelle a dû venir vers eux. OK? Premièrement. Pas d'Internet, pas de FedEx. OK? Donc, ça prend du temps. Même si ça prend 3 mois avant que tu reçoives cette nouvelle. Mais pendant ces 3 mois-là, même si tu ne savais pas, tu étais quand même libre. OK? Et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y en a certains que oui, ils ont finalement pris cette liberté-là. Ils ont dit, ah, finalement, je m'en vais. J'ai passé ma vie dans les champs de coton. J'ai passé ma vie esclave. Je pars. Mais la triste réalité, c'est que certains d'entre eux ont décidé de rester. OK? Oui, mais si je pars. Parce que, oui. Il y avait un risque de partir. Il y avait un risque à partir. Hein? Et il y a ceux, malheureusement, qui n'ont pas reçu cette bonne nouvelle. Donc, le fait que vous soyez victorieux, si vous ne le savez pas, ça ne vous sert à rien. Et si vous êtes victorieux, mais qu'on continue à se soumettre aux mensonges de l'ennemi, cette victoire-là ne sert à rien non plus. Parce que comment est-ce qu'on fait pour vaincre notre ennemi? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à ce propos-là? 2 Corinthiens 2, qu'on vient de lire ensemble, OK? Parce qu'on l'a lu en se disant quoi? On l'a lu en disant que oui, il faut comprendre les desseins, connaître les desseins de l'ennemi. Mais 2:11, ou 2:10, pardon, 2 Corinthiens 2:10, nous dit quelque chose d'important. Ce que j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, verset 10, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. OK? Gardez ça en tête. Romains 6, verset 16. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Quel lien on fait entre ces deux versets-là? Si tu ne pardonnes pas, tu laisses à Satan l'avantage dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'en refusant de pardonner, tu te mets esclave du péché. Et le péché produit dans ta vie la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, les gens, souvent, on prend la parole de Dieu comme des commandements, comme des choses auxquelles on doit obéir pour avoir une belle vie. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre vie, on pense que c'est parce qu'on n'a pas bien obéi au commandement de Dieu et que là, Dieu nous punit. Il dit, si tu ne fais pas ci, il va t'arriver ça. OK? L'autre fois, j'ai dit à mon fils, en sortant du bain, parce que c'est tout mouillé par terre, il se mettait à sauter, j'ai dit, écoute, saute pas, c'est mouillé par terre. Il dit, si tu sautes, tu vas glisser, tu vas te faire mal. Mais là, qu'est-ce qu'on dit? Oh, papa, il veut jamais que j'aille du plaisir. Il est toujours en train de me dire non. Donc, dès que papa sort de la salle de bain, qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Boum! Je me demande bien ce qui s'est passé. Oui? Pourquoi tu pleures? Je me suis fait mal. Ah? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu sautais? Oui! Est-ce que c'est moi qui l'ai puni? Mais c'est la conséquence de sa désobéissance. OK? La conséquence de notre désobéissance envers Dieu laisse l'avantage à Satan dans nos vies. Donc, ce n'est pas Dieu qui nous punit parce qu'on ne lui a pas obéi, mais Dieu met des règles parce qu'il sait qu'est-ce qui se passe si on désobéit. Donc, on voit les commandements, on voit les règles, on voit les fessiers, il ne fait pas ça, puis on se dit, ah, oh, je ne serai jamais capable de faire ça. Puis on pense que c'est Dieu, puis que là, on ne sera jamais assez bon, jamais assez capable, mais il met ces règles-là parce qu'il sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Parce qu'il sait que si tu gardes l'amertume du non-pardon dans ton cœur, c'est une porte que tu ouvres à l'ennemi. Et quand tu ouvres une porte dans l'ennemi, les conséquences du péché, c'est la mort spirituelle, dans ta vie, pas la mort spirituelle, pardon, la mort dans tes œuvres, dans tes actions, la mort dans la relation, dans ton couple, la mort dans la relation avec la personne avec qui tu refuses de pardonner. Amen? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Parce que les commandements de Dieu, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est pour qu'on vive longtemps, qu'on voit des jours heureux. Et ce que j'ai dit à mon fils, ce que je lui ai interdit de faire, c'était pour l'empêcher qu'il se fasse mal. C'est pas parce que j'aime pas ça qu'il y ait du fun. C'est parce que oui, papa, il sait, mais toi, tu ne sais pas. Et oui, Dieu, il sait des choses que nous, on ne sait pas. OK? Donc, arrêtons de voir la parole de Dieu comme quelque chose à laquelle on doit adhérer pour avoir quelque chose. Parce que Colossiens 2:10 nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Donc c'est pas le but de recevoir, mettre la parole de Dieu en pratique, c'est pas le but, c'est pas dans le but de recevoir quelque chose de Dieu, parce que nous avons tout reçu de Dieu. Mais au contraire, ne pas la mettre en pratique nous empêche de bénéficier de tout ce qu'on a déjà reçu. Pourquoi? Parce que la désobéissance, c'est le péché. Et le péché, c'est quoi? Merci. Et l'auteur du péché, c'est le diable. Donc, quand tu te soumets au péché, tu te soumets au diable et tu ouvres la porte à recevoir ce qu'il veut bien t'envoyer. Donc, ne faites pas l'erreur de dire, « Ah, c'est parce que je n'ai pas fait ça que Dieu m'a envoyé ceci. » Parce que des fois, on réalise qu'on a désobéi, on réalise qu'il est arrivé une conséquence, puis finalement, on dit, « Ah, c'est vrai, je sais, c'est vrai. La parole disait ça, puis je le sais que je ne l'ai pas fait. Je te demande pardon, Seigneur. » Oui, c'est bon de demander pardon à Dieu. Il faut... Parce que ça rétablit cette relation-là. Mais on ne demande pas ce pardon à Dieu parce que c'est lui qui nous a donné ça. Hein? OK, c'est correct maintenant que tu m'as demandé pardon. j'annule l'effet de cette conséquence-là dans ta vie. Non, 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 non. Parce que quand on demande pardon à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On revient sous la soumission de Dieu. OK? Parce que c'est ce que la Bible nous dit aussi. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais ça commence où? Ça commence par la soumission à Dieu. Oui, la soumission à ses commandements, mais comme Jésus le dit lui-même, ses commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que ces commandements sont là pour vous donner la vie, pour nous donner la victoire. Alors qu'on se soumet à Dieu, c'est drôle de dire, par la suite, résister au diable. Oui, parce que même si tu te soumets à Dieu, le diable va quand même essayer de t'ébranler. Donc, soumets-toi à Dieu, va sous la soumission de Dieu, résiste au diable lorsqu'il t'envoie des épreuves ou quoi que ce soit. Et alors que tu es soumis à Dieu, Dieu est avec toi, la parole de Dieu est là, tu continues à la confesser, tu t'établis sur la foi, sur les promesses de Dieu, tu résistes. Et il va fuir. OK? Savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Esclave soit du péché qui conduit à la mort, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. OK? C'est une, il y a plusieurs raisons, mais c'est une des raisons importantes pour lesquelles c'est important d'obéir à Dieu. C'est une des raisons importantes pour lesquelles c'est important d'obéir à la parole de Dieu. En tant que parents, on n'a aucune difficulté à comprendre l'importance que nos enfants nous obéissent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on connaît des choses qu'ils ne connaissent pas. On sait, hein, ce qui est bon pour eux. Mais Dieu sait exactement la même chose. Combien de gens ne veulent pas, ah, oh, quand je vais commencer à aller à l'église, oh, ça va vouloir dire que je ne pourrais plus faire ci, je ne pourrais plus faire ça, ah, oh, Dieu, ah, oh, Dieu va m'empêcher de faire ci, Dieu va... C'est tout faux, là. C'est pas du tout ça. OK? C'est que oui, Dieu, en sachant très bien quelle est la conséquence et la subtilité du péché, établit des, peut-être pas le meilleur mot, mais établit certaines balises, oui, certaines lois, certains principes que nous sommes libres, auxquels nous sommes libres d'obéir ou non. Mais il dit quoi? J'ai mis devant vous la vie, la mort. Choisissez la vie, s'il vous plaît. Okay? Choisissez la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est la soumission à Dieu. L'obéissance à ce qu'il nous demande. Parce que plus vous allez vous soumettre à Dieu, plus vous allez réaliser que cette soumission-là amène la vie, justement, dans votre vie. Amène la victoire. Que là où ce que vous pensiez que cette soumission-là vous enlèverait quelque chose, au contraire, vous allez réaliser que ça vous ouvre les portes vers d'autres choses que vous n'aviez jamais même imaginées. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Parce que ce qui est important de comprendre ici, OK? 1 Jean, chapitre 4, on va lire ça ensemble. 1 Jean, chapitre 4, verset 2. 1 Jean, chapitre 4, verset 2. Verset 2, 3 et 4, on va lire ça ensemble. Reconnaissez, pardon, à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Hein? Et si je veux qu'on se laisse avec quelque chose aujourd'hui, c'est ça. Parce que oui, je veux qu'on soit conscient que nous avons un adversaire. Oui, je veux qu'on soit conscient qu'il a des desseins. Oui, je veux qu'on soit conscient qu'il y a... Écoute, il cherche tous les moyens possibles pour nous ébranler, pour enlever notre foi, si possible. Mais je veux surtout que vous soyez conscient de ceci. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Que peu importe ce qu'il envoie vers vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que peu importe ce qui vient contre vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je ne connais pas un enfant de Dieu, un chrétien de quelques années, quelques mois, qui ne connaît pas ce verset-là. Mais j'en connais beaucoup moins qui sont fermement établis dans ce verset-là. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui? Quoi? Amen? Qu'est-ce qui peut m'arriver dans ma vie qui soit insurmontable? Qu'est-ce qui peut m'arriver dans ma vie, amen, que je ne sois pas capable de relever? Quel très enflammé l'ennemi peut m'envoyer dans ma vie que je ne sois pas capable de bloquer? Parce que si Dieu est avec moi, qui peut oser même s'élever contre moi? Parce que si Dieu est avec moi, je peux dormir dans la barque. Parce que Dieu m'a dit quoi? Allons de l'autre bord. Hein? Parce que tout cet épisode-là, c'est ça. Jésus leur avait dit, passons de l'autre bord. Donc la tempête qui est arrivée par la suite n'aurait jamais dû changer le fait que Jésus avait dit, passons de l'autre bord. Et ce que Jésus dit, ce que Dieu dit, il a plus que le pouvoir de l'accomplir. Donc si Jésus t'a dit, on passe de l'autre bord, même s'il pleut, même s'il grêle, même s'il neige, même si c'est la pire tempête que tu as vue de ta vie, il faut que tu sois conscient que tu vas te rendre de l'autre bord. Parce que la seule chose qui va t'empêcher de te rendre de l'autre bord, c'est de paniquer dans la barque. C'est de commencer à dire, on ne se rendra jamais, on recule. C'est la seule chose qui va t'empêcher. Parce que la réalité, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu te rendes de l'autre bord. Qui ne veut pas que tu réalises tous les dons, toutes les promesses, toutes les merveilles que Dieu nous a déjà données par sa grâce. Parce que le jour on va réaliser vraiment ce que Christ a fait pour nous. C'est là que ça va être dangereux. Le jour où non seulement on va le réaliser, mais on va oser marcher dedans. Ouch! Ouch! Pourquoi tu voudrais enlever quelque chose à quelqu'un qui n'a pas de valeur? Pourquoi veux-tu voler quelque chose qui n'a pas de valeur? Si l'ennemi fait tout pour vous enlever votre foi, pourquoi vous pensez? Parce qu'il y a une énorme valeur attachée à votre foi. Parce qu'il le sait que c'est la chose qui va lui empêcher d'être efficace ici sur terre. C'est la chose qui va lui empêcher d'amener à bien ses desseins. C'est la chose qui va lui empêcher de remporter la victoire. Et mes amis, on est dans un combat. Mais des fois, on pense que dans ce combat-là, on est supposé gagner sans recevoir un coup de poing. Celui qui gagne, ce n'est pas celui qui reçoit le moins de coups de poing. C'est celui qui se tient debout à la fin. Okay? Et moi, ma Bible me promet qu'à la fin, c'est moi qui vais se tenir debout. Donc, pourquoi pas commencer aujourd'hui? Donc, quand je tombe, je fais quoi? Je me relève. Parce que si je reste à terre, je suis sûr d'avoir perdu. Mais si je me relève, je dis, merci Seigneur, que ta force est avec moi. Merci Seigneur, que ta grâce me suffit. Et merci Seigneur, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que je vais entrer et marcher dans les plans que tu as préparés d'avance pour moi avant la fondation du monde. Que je suis ton ouvrage créé en Jésus-Christ et que je marche dans les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Et qu'aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Que si je tombe, je dis, OK, tu peux te réjouir, mon ennemi, mais je me relèverai. OK? On n'a pas le droit d'abandonner. OK? On n'a pas le droit d'abandonner. Pourquoi? Déjà, parce que lui a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Parce que déjà, lui a promis, jamais il va t'abandonner. Deuxièmement, tu n'as pas le droit d'abandonner, ou ça serait triste et dommage que tu abandonnes. Parce que la victoire est là. Parce que tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour remporter la victoire. OK? Tu n'as pas besoin de prier plus, de jeûner plus, de faire ci plus. Non, c'est de réaliser ce qui est déjà en toi. Okay? Et pour réaliser ce qui est déjà en toi, ah oui, c'est vrai. Il va sûrement falloir que tu lis plus. OK? Il va sûrement falloir que tu pries plus. Mais tu pries plus pourquoi? Pour être à la connaissance de la vérité qui t'a déjà libéré, pas pour recevoir plus de Dieu. OK? Non, mais c'est de changer la façon qu'on comprend les choses. Je vais jeûner pour que Dieu me donne quelque chose de plus. Non, 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 non. Tout est accompli. On se rappelle de ça? Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Que Jésus retourne sur la croix et dise, ah oui, c'est vrai, pour toi, j'avais oublié ça. Non? Non, tu peux prier longtemps. Je suis à peu près sûr que ça n'arrivera pas. OK? Et si ça arrive, tu pourras venir me voir et me dire que je suis menteur. Non. Tout est là. Mais vous connaîtrez la vérité. Et c'est la connaissance de la vérité, pas la vérité seule, la connaissance de la vérité qui vous rendra libre. Vous prendrez le temps d'étudier le vrai et vous allez être en mesure de combattre le faux. Hein? Je vais inviter l'équipe de louange à bien vouloir monter sur scène. Et voici ce qu'on va faire. OK? Je veux ensemble qu'on chante le chant dans le désert qu'on a chanté tout à l'heure, qui dit « Dieu est ma victoire et il est ici. » OK? Pourquoi? Parce qu'il est plus que temps qu'on commence à le déclarer. Il est plus que temps qu'on commence à y croire. Parce que je vous le dis, oui, oui et oui, il va encore arriver des choses dans votre vie que vous allez regarder, vous allez vous dire, oh, « Seigneur, pourquoi? » OK? Il va encore arriver des choses dans vos vies que vous allez dire, « Ah, il y avait peut-être une brèche dans mon armure et il y a une flèche qui m'a atteint. » Il va encore arriver des choses dans vos vies qui vont vous faire de la peine. Il va encore arriver des choses dans vos vies qui vont vous rendre triste. Il va encore arriver des choses dans vos vies qui vont faire que le matin, vous vous levez, vous dites, « Ah, ça ne me tente pas d'aller travailler aujourd'hui. J'ai pas la tête à ça. » Tant et si longtemps qu'on va vivre dans ce monde infesté par le péché, c'est des choses qui vont arriver encore. Mais la Bible me dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que tant et aussi longtemps que je reste bâti sur le roc, peu importe la tempête qui vient, je reste ferme. Et c'est cette fermeté, c'est comme la Bible nous dit, imitez ceux qui par la foi et par la persévérance héritent des promesses. Car Jésus, toutes les promesses sont oui et amen. En lui, en lui, en lui. Donc demeurons en lui, demeurez en lui, c'est quoi? Soumettons-nous à lui. Obéissons-lui. Obéissons-lui pas par religion, pas par pouvoir, le désir d'être parfait, de ne pas manquer. Obéissons-lui par amour. Obéissons-lui pourquoi? Pour éviter d'ouvrir, de laisser accès au diable dans notre vie. Et lorsque vous péchez, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. On revient vers lui, on lui demande pardon, pas parce qu'on a failli à lui, au Seigneur, je te demande pardon, j'étais vraiment déçu. Non. Je te demande pardon parce qu'en demandant pardon, je me libère des liens de l'ennemi et je reviens où est ma position, où est ma place avec Dieu, cette place de victoire. Amen. Donc on va chanter. On va le chanter, on va le crier, on va le déclarer. OK? Dieu est ma victoire. Dieu est ma victoire. Dieu est ma victoire. Et il est ici. Il est ici. Il est ici. Il est dans chaque aspect de votre vie. Amen. Amen.
C'est ma prière dans le désert. Tout en moi semble.